Voilà, donc nous sommes toujours sur Fréquence Paris Pluriel, les oreilles loin du front, et nous recevons donc Henrik et Jeff, donc ils sont deux membres de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, si je ne me trompe pas. Donc merci d'être venus, on va faire un petit point en fait sur la situation, sur la lutte des intermittents, et vous avez quand même, et des précaires également, vous avez quand même fait parler de vous dernièrement, et donc on voulait commencer par revenir sur les dernières actions qu'il y a eu. Jeff, laquelle t'as préférée, par exemple?
Il y en a à chaque fois, elles sont différentes. On a une commission action à la coordination qui ne cesse d'innover dans l'action militante non violente. Et donc, à chaque action correspond une stratégie différente qui... Voilà, chacune a sa couleur, a sa façon de se dérouler, qui fait que on se retrouve à chaque fois dans des dispositifs un peu différents. Tu veux que je
oui,
fasse
les derniers au fait de
voilà
de
oui
vos...
les derniers
ben
pour ceux qui n'auraient pas suivi un peu rappeler,
oui pour ceux que pour ceux qui n'auraient pas suivi et ben il y a eu en fait les trois dernières actions importantes qui se sont faites. Il y a eu une action dans une société privée qui s'appelle Experian, qui est un sous-traitant de l'UNEDIC et qui sous-traite des dossiers
Tu peux intervenir, Henrik, si tu veux.
La parole, je lui souffle, c'est plus simple.
Qui sous-traite des dossiers d'indemnisation des intermittents et donc par des méthodes de scannage très sophistiquées. C'est une boîte qui travaille avec d'autres sociétés dans le monde entier, en Angleterre, en Australie, etc. Et donc, en France, l'UNEDIC a fait appel à eux pour pouvoir faire un peu le travail que doivent faire les ACEDIC, qui se retrouvent aussi un peu démunis en interne d'une partie des informations, qui leur permet aussi, quand un intermittent pose parfois trop de questions et cherche à vouloir savoir des choses sur son dossier, de dire on ne sait pas, nous n'avons pas les informations, nous ne pouvons pas les communiquer.
Oui, précisément, vous avez ciblé cette entreprise parce que, à la fois, donc, c'est une privatisation en fait, du travail de l'UNEDIC. De certaines façons, ça peut poser problème. Et surtout, ça coûte extrêmement cher, apparemment, si j'ai bien compris. Le fait que l'État, de certaines façons, alloue, autorise ou fasse appel à des entreprises de ce type, mm-hmm. par rapport justement au problème de fond qui est celui de l'indemnisation de l'intermittence, il y a un vrai problème de ce point de vue-là que vous avez essayé de pointer, je pense. C'est un peu la démarche derrière ça, ou c'est juste l'entreprise en elle-même qui vous aborde et voilà.
C'est aussi que cette société donc sous-traite des données qui sont privées et personnelles, puisqu'ils scannent les déclarations mensuelles des intermittents, donc savent les heures travaillées, les jours travaillés, et ce genre de choses qui sont normalement pas diffusables. Et c'est une société qui... par le passé, a obtenu le Big Brother Award pour croisement de fichiers qu'elle enregistrait et archivait et qu'elle revendait ensuite dans d'autres pays européens par le passé.
Je dois dire qu'on s'en doutait hein, quand on vous avait décrit la société.
Et donc, pour deux annexes qui coûtent suffisamment cher, dépenser de l'argent pour pouvoir traiter leur dossier tous les mois... en plus par une entreprise qui n'est pas vraiment fiable, alors que nous-mêmes, on nous refuse l'accès aux données UNEDIC sous prétexte que ce n'est pas anonyme et que même si on les rend anonymes, ce n'est pas anonyme. Il y a un petit truc quand même qui cloche quelque part. Voilà, donc le pourquoi de la cible, entre autres.
Oui, c'est une généralisation aussi de la façon de procéder qui consiste à privatiser le service public. Qui même s'il cherche à résister, de toute façon se retrouve en concurrence avec d'autres entreprises. Donc de fait la concurrence se met en place entre ces deux univers.
Et donc comment vous avez procédé? Vous avez occupé les locaux d'Experian? Qu'est-ce qui s'est passé?
Oui, on occupe les locaux, on on rentre dans les locaux, on s'installe, on demande à parler à un responsable, ce qui marche dans un sens, mais pas toujours dans l'autre, parce que quand on nous demande à nous aussi, quand il y a un journaliste ou des gens qui, ou même des forces de l'ordre qui demandent à vouloir s'adresser à nous et qui cherchent un responsable, la réponse qu'on leur donne, c'est qu'en général, il n'y a pas de responsable et on est tous responsables. Donc, mais là, dans ces cas-là, il y a toujours un responsable.
Oui, bah, c'est une société, hein. Il y a une hiérarchie.
Il y a un organigramme. Oui, on occupe les locaux, on demande à recevoir les personnes les plus importantes dans cette société pour engager un débat, pour essayer d'avoir des réponses aux questions qu'on se pose. Et ben là, en l'occurrence, à Experian, il s'agissait du blocage de 30 000 dossiers en attente, et on voulait avoir des réponses sur le blocage de ces dossiers. Ce qui est intéressant à noter sur cette action, c'est que on a pu, donc sur l'action d'Experian qui se trouve à La Défense là-bas, c'est que pour la première fois, que ce soit en action ou même en négociation avec l'institution, on a eu l'opportunité d'avoir un interlocuteur de l'UNEDIC, ce qui est assez rare, puisque l'Experian est sous-traitant. Donc quand on arrive comme ça, ce sont des circonstances un peu exceptionnelles, eux n'ont pas à répondre à ces questions-là, puisqu'ils ont un patron qui est l'UNEDIC. Donc ils ont appelé l'UNEDIC, et il y a quelqu'un de l'UNEDIC qui s'est déplacé pour négocier avec nous. Et donc ça, c'était un moment assez, assez chouette, parce que ben voilà, on a pu essayer d'extorquer des informations, une façon de travailler, et même obtenir une négociation qui a abouti par l'acceptation par cette personne de l'écriture d'une circulaire qui serait diffusé après sur les 800 sites ACEDIC en France, voilà, pour repréciser la nécessité de faire apparaître le fonds transitoire, qui est un fonds qui permet aux indemnisés qui ne peuvent pas réaliser leurs heures en 10 mois ou en 10 mois et demi, mais qui peuvent arriver à faire leurs 507 heures en 12 mois, de pouvoir les faire dans le cadre de ce fonds transitoire. Mais peut-être on peut y revenir plus tard, parce qu'il y a une information là-dessus.
D'accord. Et donc on en était sur les actions. Tu m'avais parlé aussi de AGEUS, puisqu'on est sur la privatisation du service public continu.
Oui.
Ça ne s'arrête pas là. Et donc, qu'est-ce qu'AGEUS, qu'est-ce que vous y avez fait?
Alors, AGEUS, c'est un peu différent. Ça concerne autant les intermittents que les chômeurs et les précaires, puisque AGEUS, c'est aussi une société privée qui s'occupe de faire du placement de demandeurs d'emploi, et qui, selon le... qui touche une prime... À chaque demandeur d'emploi qui est placé, enfin disons qu'il y a un accompagnement qui se fait, et plus il est inséré, et plus à certaines étapes il y a des primes qui tombent. Donc voilà, c'est aussi dans cette dynamique de privatisation qu'on retrouve une logique de concurrence entre l'ANPE et ce type de société.
C'est les nouvelles ANPE qui découlent du plan Borloo, qui sont privatisées, subventionnées. Ils font à moitié de l'ANPE, à moitié de l'intérim, et encore à moitié de l'assistante sociale. Et à chaque fois, ils touchent des sous, beaucoup de sous, plus de sous que l'ANPE, l'assistante sociale, ou les chômeurs eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on va réguler le problème du marché du travail en France.
Oui, après on nous dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour indemniser les chômeurs, pour payer les assistantes sociales et compagnie, quoi. Évidemment. Bon. Et donc cette action, pareil, ça s'est
oui,
passé
alors,
comment,
alors celle-là, donc on arrive, on prend l'accueil, on demande aussi à pouvoir accéder à Internet pour pouvoir également dialoguer avec nos collègues qui sont à l'extérieur. On rédige un communiqué de presse. Deux petites remarques. Ce qui est rigolo à chaque fois, c'est que les forces de l'ordre qui sont de l'autre côté de la porte, souvent forces de l'ordre privées ou publiques, nous demandent à chaque fois si on a peur, c'est-à-dire une sorte de. Enfin, moi, c'est une chose que j'ai retenue aussi. À chaque fois qu'on part en action, à la fois les gens chez lesquels on est reçu s'imaginent pas qu'on puisse avoir un argumentaire, des choses précises, tout ça. Et évidemment, à chaque fois, on a droit à la balle dans le pied, à la prise d'otage, aux éternelles ritournelles. Et évidemment, le temps faisant, sur le temps de l'action, toutes ces personnes se rendent compte qu'on est, assez solide et qu'on est bien au bon endroit, qu'on n'est pas en train de faire une prise d'otage parce que ça n'a évidemment rien à voir avec ce que peut être réellement une prise d'otage. Et voilà, donc il y a à chaque fois une surprise de leur part de se rendre compte que c'est un mouvement qui est solide, qui tient la route et qui n'est pas là pour uniquement faire de l'agitation. Il y a aussi beaucoup de choses derrière qui se disent.
Quand on est arrivé chez Ingeus, en fait, on est arrivé dans des locaux vides où ils étaient sur le point de s'installer. Il y avait juste l'ordinateur de la secrétaire, les deux téléphones et trois cartons avec des post-it. Il n'y avait pratiquement pas de papier, il n'y avait rien, il n'y avait pas de meubles, c'était assez vide. Et on est tombé sur le directeur de la boîte avec lequel on a fait une petite AG qui a dû durer 3h30, 4h. On a discuté vraiment avec lui, il s'est mis derrière son bureau et nous on était assis par terre devant et ça a été question-réponse, discussion pendant 3h30, 4h. Et puis, à côté de ça, on a quand même utilisé la machine à café, il faut bien l'avouer, on ne s'est pas gêné. Il y avait une machine à café, on a vidé la machine à café.
Elle est livrée en premier, apparemment.
Et on a trouvé aussi quelques feuilles d'inscription pour les futurs chômeurs qui viendront s'inscrire. Et parmi les critères et les choses qui sont notées dans la feuille d'inscription de cette entreprise, il est demandé si on est français ou pas. Et bien sûr, il y a une petite consigne qui doit être là quelque part pour traiter en priorité les bons Français. Et voilà le genre de dérive auquel on peut s'attendre avec ce genre d'entreprise.
Oui, il y a un flicage plus poussé qu'avec la NPE ou des autres entreprises publiques. Puisqu'on parlait de prise d'otage, il y en a eu une belle et vraiment, je plaisante, hein, bien sûr, elle a été dénoncée à ce moment-là, c'était France Inter, puisque oui. Vous avez été traité de terroriste, de je ne sais plus quoi, enfin bon, on en avait passé des bouts et je pense qu'on en entendra bientôt au cours de l'émission. Donc France Inter, prise d'assaut de Stéphane Paoli.
Ils se sont rapidement calmés sur la prise d'otage à partir du moment où on leur a rappelé que dernièrement, deux journalistes étaient en véritable prise d'otage et que, bien évidemment, ça n'avait rien
ça
à
va,
voir.
Ça va, ils ont pu voir leurs femmes, leurs enfants après le truc. Pas de problème.
Avant de développer trop sur France Inter, parce que c'est un sujet certainement passionnant, je voulais quand même apporter une petite précision.
Je t'en prie.
En France et puis un petit peu partout dans le monde, le meilleur moyen de communiquer sur nos problèmes, c'est de passer par le biais des médias. Les médias, c'est la radio, c'est la télévision, c'est les journaux. C'est pas que Internet. Tout le monde n'a pas Internet et tout le monde ne peut pas trouver la bonne information sur Internet tout de suite en allumant son ordinateur. Donc, on essaye de communiquer par le biais de ces médias que sont la radio, la télévision, les journaux. Et on va donc téléphoner à ces gens-là, on les informe, on leur envoie des fax, on leur dit voilà ce qui se passe, voilà ce qui risque d'arriver, voilà les problèmes, voilà les choses qui ne vont pas, etc., etc. Passer le message, informer les gens. Et ces médias, généralement, font peu de cas de ce genre d'informations, ne les retransmettent pas. Ils sont très intéressés par les gens de pouvoir, c'est-à-dire les hommes politiques, les grands patrons, les gens très riches, ou les stars qui ont beaucoup d'argent et qui ont une présence médiatique importante. Ils sont très intéressés aussi par tout ce qui est larcin qui fait peur, c'est-à-dire les viols dans le métro, dans les trains, les agressions, les jeunes qui brûlent des voitures, des choses comme ça qui sont assez terribles. Et puis autrement, pour ce qui est des gens, des petits groupuscules qui ont des revendications, ils sont très intéressés aussi que ces revendications soient accompagnées d'actes assez visibles, comme découper des têtes, les subtiliser dans leur vie de tous les jours et les enfermer dans des boîtes pendant 2-3 mois, des choses comme ça. Et forcément, quand nous on arrive et on dit « bah écoutez, c'est la merde, on a des problèmes, il faudrait penser à essayer d'y réfléchir, le niveau de vie de la majorité des gens va s'en ressentir, il y a des gens qui ne vont pas pouvoir bouffer, il y en a d'autres qui ne vont pas pouvoir payer leur loyer », bah c'est pas assez intéressant et donc on passe un peu à la trappe et on est un peu dans la merde. Donc, pour pouvoir parler de nos problèmes et de nos actions, de nos problèmes et mettre un peu sur la table le problème que l'on rencontre chacun dans nos luttes. On n'a pas 36 solutions, on y réfléchit et on se dit, bah, il n'y a pas mieux que de se pointer quelque part et de dire, bon, bah, bonjour, salut, c'est nous, on est là. Et c'est un petit peu moins dramatique que si jamais on se mettait à enlever des gens de la RATP ou des gens de l'information et de la télévision. On pourrait séquestrer Patrick Poivre d'Arvor à la CIP pendant 3 semaines, mais bon, ça serait dur à tenir pour nous. Et je ne sais pas si jamais il paierait la rançon et s'il parlerait un peu plus de nous, mais pour l'instant, le mieux qu'on ait trouvé à faire, c'est d'arriver, de rentrer dans les locaux gentiment, de dire on n'est pas méchant, on n'est pas violent, on voudrait juste parler 30 secondes pour informer les gens, pour dire que voilà, c'est la merde, et ça serait peut-être bien de s'arrêter 30 secondes et d'y penser. Et malgré tout, il faut savoir quand même qu'à chaque fois qu'on fait une action, quand on ressort de l'action, il y a des messieurs qui sont habillés en bleu, bleu marine, avec des chaussures noires, avec des casques et puis des petits bâtons. Et bon, des fois, ça se passe bien. Ils nous laissent passer, ils nous laissent ressortir. Et ils nous disent, heureusement que vous êtes partis, comme ça, on a fini notre journée de travail. Puis des fois, de temps en temps, il y a des petits coups qui partent. C'est des choses qui arrivent encore. Voilà ce que je voulais préciser. Maintenant, on peut parler de France Inter.
Bah on peut même écouter tout de suite un petit morceau.
Ah bah oui, c'est le mieux.
9h moins le quart à l'écoute de France Inter. Malaise, Yves Decamps, vous avez dit malaise. Qui dit malaise? Non, il y a eu une petite interruption des programmes tout à l'heure. C'est Patrick Roger qui est avec vous, qui était avec vous depuis 8h10. Et nous allons retrouver Stéphane Paoli, donc coincé dans un autre studio.
Non,
il n'y a pas d'autre mot.
Pas coincé, justement. Et puis après tout, malaise, est-ce que c'est le bon mot? C'est produit ce matin un fait. Des manifestants sont arrivés dans un studio en cours d'une tranche d'information. Alors, il y a deux solutions. Ou on constitue un blocage en disant c'est inadmissible, on prend pas l'antenne de France Inter de force et on coupe l'antenne et il ne se passe plus rien. Ou on essaie de trouver une solution plus intelligente et se demander ce qui se passe, pourquoi ça se passe, comment ça se passe et comment peut-être on peut en sortir. C'est ce que nous avons décidé de faire, c'est-à-dire que nous allons prendre maintenant le point de vue de Jean-Francis, de la coordination, de Jérôme, lui aussi de la coordination des intermittents et des précaires, ils sont l'un et l'autre comédiens. Nous allons prendre le point de vue de Nadia, qui elle milite à AC, c'est-à-dire à l'association Agir contre le chômage.
Ensemble.
Cette manifestation dans le studio d'Inter ce matin, alors évidemment qu'elle prend une forme, Jean-Francis, qui est, comment dire les choses, qui est brutale. Pourquoi en êtes-vous obligé? Est-ce qu'on est décidément tout le temps dans le mal français, c'est-à-dire cette incapacité à se parler autrement ou à se poser les questions autrement que dans un rapport de force?
Oui, je ne peux pas vous laisser tout à fait dire que c'est brutal, puisque finalement, nous sommes entrés dans ce studio et nous avons dialogué avec vous, et maintenant, nous avons trouvé un accord et nous pouvons parler. Donc, la brutalité...
Non, mais il a fallu l'éruption, quand même.
Bien sûr, il est évident qu'on est dans une situation où on ne nous demande pas toujours notre avis dans plein de situations. Il se trouve qu'aujourd'hui, c'est l'Assemblée Générale du MEDEF. On voit bien depuis 2 ans que le MEDEF ne nous demande plus notre avis à nous, par rapport au problème des intermittents. Mais il n'y a pas seulement nous, c'est tout le problème de l'UNEDIC, c'est tout le problème des salariés et des chômeurs qui est mis en question, qui va être remis en question et rediscuté le 31 décembre 2005. C'est bien pour ça que maintenant on est arrivé à un stade où il faut bien qu'on prenne la parole parce qu'on ne nous écoute pas. Et c'est pas seulement nous, petits intermittents ici, c'est un peu partout, c'est un problème qui est général. Dans d'autres pays, le problème se pose dans les mêmes termes, le patronat, il y a une reprise en main du patronat, une remise au travail du salarié, on remet en question les droits acquis, on remet en question les conventions collectives qui ont été négociées depuis des années. Il y a des gens qui sont morts pour ça.
Oui.
Et c'est absolument scandaleux que ça soit aujourd'hui remis en question sous cette forme. Donc voilà, on dit assez.
Et oui, non, vous n'êtes pas sur France Inter, vous êtes sur Fréquence Paris Pluriel. Et donc, c'était donc les intermittents prennent d'assaut l'antenne de France Inter, puisque France Inter ne parle pas d'eux, c'était ça le but. C'était le 18 janvier, si je ne me trompe pas. Hein.
Donc, tout à fait, journée de l'AG du MEDEF.
Exact. Donc cette action, vous êtes ressorti entier, les forces de l'ordre n'ont pas été...
Apparemment, oui, pour l'instant, sur cette action, les preneurs d'otages ont été libérés de suite et sont ressortis tout à fait en entier, en un seul morceau. Le début de journée s'est très très bien passé.
Et donc tu nous disais hors antenne que la journée s'est poursuivie en
oui,
action.
Oui, tout à fait, la journée s'est poursuivie. Il y a eu un appel à rassemblement devant le Zénith, enfin devant la halle de la Villette, pour aller devant le Zénith accueillir les nombreux patrons qui faisaient une AG, l'AG du MEDEF, au Zénith. C'était certainement un très très beau spectacle, mais j'avais pas d'invitation. Donc là, il y a eu nombre de personnes qui sont venues de toutes sortes d'organisations, d'AC, de la CNT, de la CIP et autres, des électrons libres, pour dire ce qu'ils pensaient des patrons quand les patrons ressortaient de ce formidable rendez-vous. Et ensuite, il y a eu un petit groupe d'action de convergence avec donc toutes sortes d'organisations qui sont parties c'est un grand mot, qui sont allés directement à la mairie du Pré-Saint-Gervais pour essayer de discuter avec un monsieur élu PS qui s'appelle Bartolone pour lui faire part. Alors, ça n'a rien à voir avec l'AG du MEDEF. C'était en rapport avec les sans-papes, les sans-papiers qui étaient dans les locaux du PS un petit peu plus loin, toujours au Pré-Saint-Gervais. Et donc, on est arrivé à une quarantaine, cinquantaine dans cette mairie pour pouvoir parler à ce personnage qui est un élu, avec qui donc on devrait pouvoir parler, discuter, afin qu'il prenne position par rapport à ce que ses amis de son parti faisaient en ce moment même à des sans-papiers qui venaient les voir eux, parce que les sans-papiers, qu'est-ce qu'ils ont comme choix? Aller voir des partis politiques de gauche ou faire l'occupation d'un commissariat? Mais l'occupation d'un commissariat, je ne sais pas si c'est une très très bonne idée. Il y en a quelques-uns qui ont essayé. Après quelques jours, ils ont occupé des cellules pendant quelques temps. Ça n'a pas forcément amélioré leur situation. Et là, par contre, on est arrivé dans la mairie sagement. On a demandé à pouvoir discuter avec M. Bartolone, qui n'était pas là. Son secrétaire nous a dit qu'il allait l'appeler, qu'il allait voir ce qu'il pouvait faire. On va dire que 20 minutes après, il y avait des policiers, je pense que ça doit être de la BAC, qui sont arrivés, ou des CRS, ou un petit peu des deux mélangés, qui sont rentrés tout de suite dans la mairie, qui nous ont sortis tout de suite en nous tirant par le paletot, et qui ont donné quelques petits coups de bâton par-ci par-là, et qui n'ont pas du tout été gentils et tendres, ni même courtois. C'était un rapport tout à fait différent avec la police. Ensuite, on a été devant le siège du PS, un petit peu plus loin, où étaient enfermés les sans-papiers, où ils étaient séquestrés. Il y avait des policiers devant qui les empêchaient de sortir. Il y avait des gens du PS à l'intérieur, au premier étage, qui les empêchaient de monter. Et donc, ils étaient pris en sandwich dans ce bâtiment et ils ne pouvaient rien faire. Apparemment, on ne leur apportait même plus à manger. Et on a essayé de les soutenir en faisant une petite manif à 30-40. Mais dès qu'on est parti, le soir, les forces de l'ordre sont rentrées à l'intérieur, les ont sortis. Il y en a qui seront rentrés pour aller chercher leurs affaires. À ce moment-là, il y a des gens du PS et de la police qui ont décidé de les gazer pour les faire sortir, de peur qu'ils restent à l'intérieur. Et donc, il y a eu des lacrymos qui ont été lancés. Il y avait des femmes et des enfants, bien sûr, comme toujours. Et puis ensuite, il y a eu 7 personnes qui ont été arrêtées, mises en garde à vue, dont 5 sans papiers. Et il y a eu un long combat avec beaucoup de soutien de la part de toutes sortes de personnes, activistes, de tout orga, qui ont passé leur journée à faire le plancton devant les commissariats de police et devant la préfecture de Bobigny pour que soient relâchées ces personnes qui ne faisaient rien d'autre que de militer, de demander des papiers pour pouvoir travailler et pas pour venir voler la CEDIC de Borloo. Enfin, voilà.
Il n'aura pas besoin de la CEDIC, à mon avis. Mais... donc, bah oui, bah, ça, c'était... ça illustre, en fait, on n'a même pas besoin de l'aborder, ça illustre un peu la convergence des luttes qui existe aussi, parce que vous êtes sur la lutte des intermittents, mais vous ne vous occupez pas que des intermittents. Enfin, vous êtes aussi concerné par la précarité en général, et comme tu viens de le dire, et les problèmes de papier, parce que les sans-papiers sont quand même les premiers concernés au niveau de la précarité, de la super précarité. Alors, on va peut-être s'arrêter là sur le passé. Venons-en à l'avenir. Est-ce que vous avez des actions en vue ou des journées de mobilisation en vue
Oui, il y a deux journées de mobilisation en vue qui sont le 2 avril et le 1er mai. Le 2 avril, il y a une grande mobilisation, grande journée de mobilisation européenne par rapport au problème des migrants. C'est-à-dire le problème des immigrés, le problème des sans-papiers, mais aussi le problème des travailleurs qui vont migrer en Europe d'un pays à l'autre et qui vont travailler avec le statut et les charges de pays.
2004, il me semble. Et elle n'a pas fait de bruit jusqu'à ce que certains s'en aperçoivent et ne soient pas contents. Et du coup, les gouvernements, notamment le gouvernement français, reculent un poil. Je dis bien un poil. Mais cela dit, voilà, cette directive, le principe, c'est on est dans l'Union européenne, c'est super, mais on ne va pas harmoniser dans le bon sens les lois qui régissent le travail. On va par exemple un Polonais, s'il a un SMIC à temps, il vient travailler en France, et ben il touchera le SMIC polonais, la sécurité sociale polonaise si elle existe, etc. Il aura les conditions sociales et de travail de son pays d'origine.
Tout à fait.
Donc ça c'est génial, c'est ça l'Europe aujourd'hui.
C'est comme ça qu'on va se retrouver avec des musiciens polonais qui viendront jouer au théâtre
ils
de la Bastille.
Moins cher, ils n'auront pas le statut d'intermittent.
Ils n'auront pas le statut d'intermittent, ils n'emmerderont personne, ils ne toucheront pas la sécurité sociale et ils travailleront pour 2 euros de l'heure ou 3 euros de l'heure. Et encore, parce qu'ils seront bien payés, ils seront défrayés pour le trajet.
Enfin, ceci étant, nous ne sommes pas en train de nous mettre en concurrence, justement. Nous n'avons pas envie de nous mettre en concurrence avec les travailleurs des autres pays, puisque... l'idéal, ce serait d'harmoniser dans le bon sens. Quoi.
L'idéal, ce serait que les Polonais viennent travailler en France, mais avec notre statut.
Exactement, oui.
Et
vice-versa.
Non, je n'ai pas forcément envie d'aller travailler en Pologne au statut polonais, personnellement.
Non, je dis avec le meilleur statut possible pour tout le monde, où que tu ailles, etc. Bon, bref, on est dans l'utopie. Et alors, donc on a été sur cette journée d'action.
Donc, il y a cette journée qui est en préparation. Et il y a aussi une deuxième journée qui sera la journée du MEDE. C'est le 1er mai, le jour de la fête du travail, et qui sera encore une fois une grande journée d'action européenne, puisque le 1er mai est une journée de fête du travail qui a lieu un petit peu partout dans le monde, et donc en particulier en Europe, et qui est une journée qui est devenue un petit peu morte, puisque c'est devenu un jour férié où on sort dehors pour manger des merguez frites et pour faire à peu près le même trajet. Je crois que, si je ne me trompe pas trop, cette année, on devrait faire République à départ à 14h. On devrait passer par Bastille. Et il est fort probable que ça se termine à Nation.
À
Mais
Paris, en tout cas, oui.
Je ne suis pas sûr. Il faut demander aux syndicats. C'est eux qui décident du parcours. Donc, à Paris, il est probable que ça ait lieu comme ça. Et il va y avoir beaucoup de personnes qui vont venir, qui vont acheter du muguet, qui vont porter des autocollants, plein d'autocollants, des badges qui polluent un petit peu, pour faire de la publicité pour leurs organes respectifs, la CFDT, la CGC, des choses comme ça. Et ces gens vont donc se promener toute la journée du 1er mai et vont rentrer le soir contents et voir sur TF1 qu'il y a eu une grosse mobilisation avec une belle image de foule en ouverture du journal de PPDA. Et voilà, la vie est belle, continuons de vivre, continuons de travailler, soyons heureux. Et donc, en Europe, on est plusieurs orgas de précaires un peu partout à se dire que ce n'est pas forcément la meilleure manière de gérer la journée. Que cette fête du travail, c'est aussi un moment où on peut mobiliser beaucoup de monde, on peut faire des actions, on peut faire des manifestations, on peut faire passer des messages, et qu'il faut en profiter. Donc on essaye de se réunir avec plusieurs collectifs européens. Ça a été lancé au départ à Milan il y a quelques années. Ça a été suivi l'année dernière par Malaga et Barcelone. Et on s'est vu dernièrement. On va se revoir mi-mars à Paris avec tout le monde pour pouvoir essayer d'organiser une action commune, histoire que les médias un peu partout en Europe se rendent compte que c'est pas juste dans un pays un petit groupuscule qui fait son petit truc, mais que c'est bien la même chose et la même type d'action partout en Europe. Il va y avoir donc Milan, Barcelone, Paris, Berlin, Londres, Liège, Amsterdam, Malaga, et j'en oublie, il y en a d'autres encore. Et on va essayer d'organiser cette journée-là. Le principe sur Paris, ça va être de commencer la journée dans la matinée et début d'après-midi par des actions. Chacun fait des actions qu'il a envie de faire dans son coin ou qui concernent son problème par rapport à la précarité ou par rapport au problème du travail. On n'est pas là pour faire une pyramide avec on vient tous se réunir, on va tous aller au même endroit faire une grosse action. Non, c'est vraiment chacun fait ses petites actions dans son coin. Et ensuite, on se retrouve pour faire une grande manifestive qui partira probablement du côté de Place de Clichy ou de Pigalle pour aller ensuite finir à République. Et là, on aimerait bien terminer avec un concert festif et militant. Et on s'occupe de la nourriture pour ne pas avoir forcément que des merguez frites et du coca à consommer.
Donc, vous dissociez clairement de la manif traditionnelle des syndicats
Tout à fait. C'est une manifestation en marge qui est beaucoup plus militante et qui est beaucoup plus revendicative. Mais on n'est pas là en concurrence. On partira après, c'est-à-dire quand eux, ils auront terminé leur manifestation, on commencera la nôtre, ce qui fait que
ils pourront nous rejoindre.
Nous rejoindre si jamais ils en ont l'énergie ou l'envie. Et on aura un parcours différent pour que ceux qui viennent à Paris une fois par an faire le 1er mai puissent voir d'autres quartiers et d'autres rues. Il n'y a pas que République, Bastille, Nation à Paris, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Tour Eiffel, mais on n'y va pas cette année. On termine par un grand moment de concert, parce qu'on n'est pas là non plus pour faire la guerre, on est là aussi pour s'exprimer et pour faire un peu la fête, et pour essayer de finir sur une note de sourire. Voilà.
bien, pour le moment, les intermittents sont sur le plateau de Fréquence Paris Pluriel. En tout cas, deux d'entre eux, c'est déjà pas mal. Donc, Henrik et Jeff, donc, de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Henrik, tu avais une petite précision à faire sur le Mayday.
Oui, j'ai une petite précision à faire sur le Mayday. Donc, on essaye d'organiser cette journée-là de façon à pouvoir être synchrone et à pouvoir faire des choses en commun ensemble. Et pour ça, on essaie de se donner un petit peu de temps et on a une journée de préparation. La prochaine journée de préparation, c'est le 23 février, mercredi 23 février à 18h à la CIP, la coordination des intermittents et précaires, qui se trouve 14, 16, Quai de Charente, dans le 18e ou dans le 19e, le métro Corentin-Cariou. Et donc le 23 février à 18h, on invite... Les différentes organisations qui se sentent concernées par les problèmes du travail et par le problème de la précarité à venir nous rejoindre pour c'est pas pour qu'ils viennent travailler pour nous ou pour qu'ils viennent supporter nos idées, mais pour qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'on peut faire de manière synchrone sur la capitale ce jour-là et essayer de faire que ce jour-là les médias parlent d'autre chose que de la manif République, Bastille, Nation, voilà.
D'accord. Bon, on va donc continuer sur... On va rentrer un peu plus dans les détails quand même sur la question de l'intermittence. Et notamment, je crois qu'il y a même une commission au sein de la CIP qui travaille là-dessus, sur les conséquences de l'application du protocole.
Absolument.
Et donc
C'est une commission qui s'appelle Tenir le cap. Le cap, ce sont les conséquences d'application du protocole. Et il s'agit, en attendant que... On va attendre que le
c'est les pompiers, c'est les pompiers.
C'est les pompiers.
Ça va.
Tout va bien.
Ça va, je ne sais pas pour qui ça va, mais...
Pour nous.
Pour nous, ça va.
Et le CAP, c'est une commission de la coordination qui accueille les personnes, les intermittents, qui se pointent aux ACEDIC et qui ne trouvent pas de réponse à leurs problèmes nombreux. Face à un dispositif qui se complexifie, dont on a d'ailleurs l'impression qu'il se complexifie pour justement que ce soit de plus en plus complexe pour que justement ils comprennent plus rien et que enfin il y a quand même des
et qu'ils aient du mal à faire appliquer leurs droits, c'est ça aussi. Hein.
Oui, voilà. Il y a une logique hein, derrière tout ça quand même, mais c'est vrai que c'est noyé derrière des circulaires, des avenants aux circulaires, des circulaires d'avenants, des circulaires d'avenants, et on tourne en rond, enfin on tourne pas en rond, c'est les choses avancent, mais disons que c'est toujours de plus en plus complexe, quoi. Donc voilà, cette commission reçoit dans nos locaux, fabuleux locaux, les intermittents qui ne trouvent pas de réponse. Et je rappelle les horaires d'ailleurs, c'est le lundi de 14h à 20h et le jeudi de 17h à 20h. Voilà.
Et donc, concrètement, les conséquences de l'application de ce protocole, qu'est-ce que ça donne comme type de situation ? Parce que le premier été, c'était de lutter contre ce protocole.
Pour l'abrogation.
Et puis, maintenant, il est appliqué, ce protocole. Donc, qu'est-ce que ça donne concrètement ?
Alors, il y a toujours plein de cas différents. Ça arrive par vagues aussi, suivant les périodes. C'est plus ou moins des cas qui vont se ressembler, tout ça. Et donc, ça fait maintenant un an que cette commission existe et qu'elle répond un peu aux demandes. Et ma foi, comme actualité concernant le CAP, on peut parler d'une circulaire. Une circulaire d'application qui remplace celle de 2003, qui a été resignée avec les mêmes partenaires qui ne représentent pas l'ensemble des concernés, c'est-à-dire le MEDEF et la CFDT, au 1er décembre de l'an dernier, et qui a été, si vous voulez, est juridiquement nulle. parce qu'elle n'a pas, si vous voulez, elle n'est pas soumise à un agrément du ministère des Affaires sociales. Donc elle a été comme ils font un peu comme d'habitude, elle a été signée, elle est mise en place, et puis on subit un peu les conséquences d'application du protocole. Suite à cette nouvelle circulaire, le gros changement qui s'est effectué, c'est que on s'est retrouvé à recalculer les droits des intermittents dès qu'ils arrivaient à 507 heures, ce qui n'était pas le cas avant. C'est-à-dire que maintenant, dès qu'on arrive au seuil des 507 heures, le calcul de l'indemnisation est recalculé. Donc ça, c'est une chose qui est arrivée précédemment. Et non, qu'est-ce qu'il y a?
Non, peut-être tu pourrais un petit peu plus, pas rentrer dans le détail, mais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas du tout le système, quoi. C'est-à-dire...
Oui, en deux mots, il y avait une date anniversaire fixe sur laquelle on pouvait s'appuyer de manière calendaire pour pouvoir se projeter. Et maintenant, on est dans un système aléatoire où une fois qu'on a... Alors, il y a eu des seuils d'accès qui se sont réduits. Maintenant, avant, il fallait faire 12 mois de cotisation pour pouvoir ouvrir des droits. Maintenant, c'est 10 mois et 10 mois et demi pour les artistes et techniciens. Pour ceux qui arrivent à faire leurs 507 heures dans ces temps-là, il y a une ouverture de droit qui est calculée sur les salaires et le nombre d'heures travaillées sur la période de référence de 10 mois et demi. Donc ils reviennent en arrière à partir du moment où les droits ont décidé d'être réouverts. Ils reviennent en arrière, ils regardent s'il y a les 507 heures ou pas. Si elles y sont, on ouvre des droits. Si elles y sont pas, on ne les ouvre pas. Et si on les ouvre, ça donne droit à un capital de 243 jours.
Ce qui correspond à peu près à 8 mois.
Voilà, un capital qui s'épuise progressivement jusqu'à la prochaine réouverture de droit, si on a de nouveau fait ces 507 heures. Mais ça, je vous dis que ça avait changé, puisque maintenant, je vais expliquer ça simplement. Avec cette nouvelle circulaire, on recalculait les droits arrivés à 507 heures. Et donc ça, c'était dans la nouvelle circulaire qui vient d'être appliquée. Mais maintenant, il y a eu de nouveau un nouvel avenant à cette circulaire. L'avenant de la circulaire, qui maintenant propose un système à la carte où, une fois qu'on arrive aux 507 heures, eh bien, la CEDIC envoie une feuille et l'intermittent a le choix entre recalculer...
Recalculer son SJR.
De recalculer son salaire journalier de référence qui détermine son indemnité journalière à partir des 507 heures ou pas. C'est-à-dire que la CEDIC envoie cette feuille. On décide ou pas de la renvoyer. Si on la renvoie, il y a recalcul. Si on ne la renvoie pas, eh ben le capital des 243 jours continue de courir jusqu'à la fin. Mmh. Voilà, donc ça c'est vraiment la dernière actualité. Il y a aussi une deuxième chose.
Je voulais préciser un petit truc.
Je voulais préciser que généralement, la majorité des personnes qui reçoivent une lettre des ACEDIC, où on leur demande de renvoyer un document, s'empressent de remplir le document et de le renvoyer sans réfléchir. Parce que quand on ne renvoie pas le papier ACEDIC ou le petit truc qui est demandé par habitude, on sait qu'on est radié, qu'on perd ses droits, qu'on perd ceci, que cela, c'est la merde, et on est grave dans la merde pendant les 3 mois à venir. Donc sans réfléchir, la majorité des gens qui ne sont pas au courant, dès qu'ils vont arriver à leur 507e heure, vont signer le papier, ils vont le renvoyer, et vont perdre des journées d'indemnisation qui leur étaient dues, et éventuellement, s'ils ne sont pas capables de calculer eux-mêmes leur propre salaire journalier de référence, risquent de se retrouver avec un salaire journalier de référence moindre pendant donc moins longtemps. C'est une des conséquences de l'application du protocole.
D'où la nécessité de se tenir au courant des choses qui se font, soit à travers les ACEDIC, mais évidemment, le mieux, c'est aussi de consulter, de venir soit au CAP, soit de consulter le site de la coordination aussi, qui décrypte un peu ces informations pour avoir un peu une information qui soit la plus lisible face à cette complexité. Et le site, oui, cip-idf.org.
Point où va-t-on, point org. Où va-t-on, tout attaché, sans orthographe normale.
Il n'y a même plus besoin de mettre où va-t-on, il me semble.
Ah bon ?
Je n'en ai absolument aucune
c'est
idée.
C'est pas grave, oui, vous CIP, pouvez le trouver comme ça.
Google, CIP, sans problème. Quoi.
Voilà, ça n'a pas de souci.
Aussi, une autre chose qui arrive en ce moment et qui provoque des hécatombes chez les intermittents, c'est ce qu'on appelle le champ d'application, c'est-à-dire qui découle un peu d'un rapport qui s'appelle le rapport Charpillon. Il y a eu tout un tas de rapports sur plein de sujets concernant l'intermittence, dont celui-là, qui est assez suivi, malheureusement, et qui consiste à faire le ménage par les métiers et par les codes employeurs, les codes NAF, les codes APE.
Donc ça, c'est le code en fait qui apparaît normalement sur une fiche de paye,
oui.
qui indique
au registre du commerce, et
voilà, qui indique dans quelle branche est votre entreprise, donc éventuellement à quelle convention collective vous appartenez.
Oui, voilà. qui correspond aussi à une liste de métiers. L'exemple le plus significatif consiste à dire par exemple un métier qui s'appellerait régisseur de plateau. Un intermittent qui fait ses heures, il se pointe aux ACEDIC avec ses heures, et il se trouve que dans la liste des métiers, ça n'est pas indiqué par régisseur de plateau, mais régisseur plateau. Donc il y a une terminologie qui n'est pas exactement celle indiquée dans la liste des métiers. Donc les heures ne sont pas comptabilisées.
Ça paraît con comme ça, mais c'est pas plus.
C'est aussi con que ça, quoi. Face à ce problème, toujours à la coordination dans cette commission CAP, c'est mise en place après les temps de concertation, le jeudi, entre 17h et 20h. À partir de 20h, depuis la semaine dernière, il y a une réunion qui se fait autour de ces champs d'application pour essayer de savoir comment se positionner, comment réagir, comment contrer cette façon d'expédier les métiers et les employeurs.
Et puis il y a aussi l'envie de lister un petit peu toutes les failles et toutes les horreurs qui découlent du protocole. Pour pouvoir, lorsque l'on croise nos élus comme M. Renaud Donne-Dieu de Vabre et ses copains du MEDEF, leur dire, voilà, des expériences vécues, il y a ce problème-là, plus ce problème-là, plus ce problème-là, plus ce problème-là, plus ce problème-là. Et on se dit que peut-être un jour, à force qu'on leur répète qu'il y a ces problèmes-là qui sont réels et concrets, de la vie de tous les jours, de plein de gens, qui finiront par se dire, oui, on a peut-être fait une connerie.
Espérons.
Soyons utopistes.
Oui, tout à fait.
Ils sont contre quoi, là ?
C'est les intermittents du spectacle, en fait.
Ah, alors là, je les approuve à 100%. J'avais pas compris.
Un jour, n'est inscrit dans son dossier qu'il a cotisé 325 euros par jour. Donc une star de cinéma comme Gérard Depardieu ou un comique comme Franck Dubosc ou un présentateur télé comme Nagui doit toucher certainement, à mon avis, un tout petit peu plus que 325 euros par jour. Quand il touche un petit peu plus que 325 euros, il paye un petit peu plus de charges que des charges sur 325 euros. Mais l'UNEDIC n'a enregistré que 325 euros, donc calcule les charges en fonction de ça, il dit effectivement les intermittents ne payent pas tant de charges que ça par rapport à ce qu'ils nous coûtent. D'un autre côté, c'est toujours pareil, l'UNEDIC n'enregistrant que les chiffres qui l'intéressent, les intermittents du spectacle qui ne font pas leurs 507 heures dans l'année, et ils sont assez nombreux, puisque l'INSEE en a recensé en 2003 plus de 63%. Plus de 63% des intermittents du spectacle ne touchent pas les ACEDIC, alors qu'ils travaillent. Et ben, tous ces intermittents du spectacle-là, quel que soit leur cachet, qu'ils fassent 325 ou moins, ou 50 euros, ou 800 euros, cotisent à l'UNEDIC et ne perçoivent rien. Et cet argent qui rentre dans les poches de l'UNEDIC n'est pas comptabilisé dans ce qu'ils disent être notre déficit. Donc les chiffres sont totalement mensongers. Du début jusqu'à la fin. Et donc, on en arrive à cette PPL qui n'a pas pour but de changer tout le système et puis de faire en sorte que la guerre est finie, que le monde est meilleur et qu'on n'a plus besoin de lutter, mais a pour but de forcer les signataires que sont le MEDEF, la CFDT, la CGC, et consorts à revenir autour de la table de négociation pour signer un nouvel accord, un nouveau protocole avec de nouvelles données, avec de nouveaux chiffres, avec tout ceci, ce qu'ils ne veulent pas faire. Le gouvernement a beau leur dire ce serait peut-être bien de se remettre autour de la table et d'en parler, ils veulent pas. Donc cette PPL serait un moyen de pouvoir leur forcer la main et de dire ben voilà, dans cette loi il est obligatoire, puisque la loi est passée et votée, qu'il y ait telles conditions qui soient remplies, comme la date anniversaire, ou les 507 heures sur 12 mois. Et comme votre protocole actuellement en vigueur ne tient pas compte de ça, vous êtes obligé de vous remettre autour de la table pour discuter, pour tenir compte de ces nouvelles données, de ces nouvelles bases dans vos négociations.
Bah, il faut juste qu'on fasse court, parce que l'émission va bientôt se terminer. Donc, non, mais Jeff, tu avais quelque chose à ajouter.
Enfin, est-ce que vous êtes optimiste, en fait, sur l'aboutissement de cette PPL?
Oui, oui, bien sûr. Oui, ouais.
Non.
C'est bien, vous êtes partagé.
Alors, moi, j'ai dit oui, et Henrik, il expliquera pourquoi il dit non. Oui, parce
non,
que...
Non,
bah oui, c'est... C'est une vraie, c'est une véritable occasion de pouvoir abroger ce protocole dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est mauvais et dont on ne comprend pas pourquoi les décisions n'ont pas été précédemment prises. Donc il y a une véritable opportunité de pouvoir éventuellement enfin y arriver, bien sûr.
Bon, alors, pour terminer, je sais que c'est un peu rapide. Non, on va changer de sujet. Et tu as moins de 2 minutes. Vous avez moins de 2 minutes pour en parler. J'ai cru savoir aussi, j'ai cru comprendre que... Et là, je crois que je suis bien informée. Que vous aviez lancé une enquête sociologique, c'est comme ça que vous l'appelez, sur, en fait, qui sont les intermittents, si c'est bien ça.
Sur pratiques d'emploi, des intermittents. C'est une enquête qui consiste à prendre en compte toutes les données qui correspondent à la façon dont travaillent les intermittents. Et à ce titre, effectivement, j'en profite pour s'il y a des intermittents qui nous écoutent, qui n'hésitent pas à contacter la coordination soit par le biais du site ou du téléphone. Est-ce qu'on a le numéro de téléphone là? Je ne sais même pas.
Bon, en tout cas, vous pouvez passer au 1416 quai de Charente, oui. Dans le 19e, métro Corentin-Cariou. Pour ceux qui ont Internet, vous pouvez taper cip-idf.ouvaton.org.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait encore le ouvaton. Je crois que c'est cip-idf.org, simplement.
Oui.
Mais Google le fait très très bien.
Voilà,
on subventionne le gouvernement américain en utilisant Google, mais c'est pas grave. pour une fois.
Donc voilà. Donc bah écoutez, en tout cas, l'émission se termine. Je crois qu'on va s'arrêter là. C'est bien dommage. On aurait beaucoup de choses à dire encore. En tout cas, merci d'être venu.
On vous a pas dit, mais en fait, on reste. On fait une occupation de FPP.
Ah bah c'est
et
ça.
Et on passe l'heure suivante à continuer à parler de nos problèmes. Et écoutez-nous.
Vous nous avez entendu, merci. Donc, c'est très bien. Ben nous, on est très contents. On n'est pas comme France Inter. Et la semaine prochaine, donc pour avant de vous laisser dans les bras d'écho du Capricorne, je vous informe que Les Oreilles Loin du Front recevra Monique Pinson-Charlot et François Pinson, si on ne se trompe pas de prénom, pour leur livre sur la sociologie de Paris. Donc, comment Paris se restructure sociologiquement? Comment est-ce que ça se fait que les cadres sont de plus en plus nombreux à Paris et que les classes populaires sont rejetées vers la périphérie? On parlera de tout ça la semaine prochaine. Donc, ce livre est publié aux éditions La Découverte. Et bien, au revoir. Il y avait Jérémy, Guillaume, donc Henrik et Jeff. Et on vous dit à la semaine prochaine. On vous laisse dans les bras des coups du Capricorne.
Et merci de nous avoir écoutés.